Si Pascal est un théologien radical, c'est dans la mesure où il ne se contente pas d'une rationalisation acceptable de l'existence de Dieu, d'une conviction tiède, mais il cherche un point fixe qui soit l'appui de l'existence tout entière. Ce point fixe, ce n'est pas Dieu, mais le pari sur l'existence de Dieu. Nous avons donc une figure particulière du choix. Non seulement est-il pur, au sens où je viens de l'indiquer, mais il est aussi paradoxal, puisque c'est un choix qui se donne comme impératif. C'est ce qu'indique le fragment que je viens de citer, qui commence par cette injonction irrésistible: il faut parier, cela n'est pas volontaire. Vous êtes embarqué. Le choix est donc une nécessité, car selon Pascal, quoi qu'il en soit du choix effectué, on ne peut pas ne pas choisir. Et un non-choix est déjà un choix. Il faut donc noter, à cet égard, qu'il n'y a pas ici de stratégie de la fuite à la Barthelby. Le célèbre je préférerais ne pas, dont Tony Negri et Giorgio Agamben et d'autres feront un exemple d'acte politique, voire de stratégie de lutte. La nécessité du pari est posée comme un postulat de départ, comme un présupposé, une fois encore, qui ne nécessite pas de démonstration. Vous êtes embarqué, devient la formule d'un défi lancé à toute neutralité supposée, à tout refus de prendre parti. La nécessité du pari indique l'impossibilité du non-engagement, tout simplement. Il dépend de chacun de parier sur une chose ou sur son contraire, mais non de parier ou de ne pas parier. Voilà le sens de la phrase de Pascal: oui, mais il faut parier, cela n'est pas volontaire, vous êtes embarqué. En réponse à l'interlocuteur qui lui opposerait qu'il vaut mieux ne pas parier et choisir cette vie-ci, limitée mais certaine, plutôt que l'autre, certes attrayante mais incertaine. On reconnaît bien sûr dans cette posture, par analogie, celle du sceptique contemporain. N'est-il pas mieux, plus raisonnable, plus stratégique de ne pas tout miser sur l'advenue d'une révolution si incertaine, au contour si indéfini, dont on ne peut pas être sûr qu'elle ne produira pas plus de violence et plus de misère de ce qu'il y a déjà. Tandis que la position de Pascal fait écho à celle du militant, dans la mesure où un militant croit qu'il vaut mieux en tout cas parier, tout en sachant que sa capacité d'agir ne se meut pas dans l'évidence de la solution assurée, mais dans la contingence irréductible d'une hypothèse. Nous l'avons vu, le choix n'est pas affaire de savoir ou de rationalité. Chez Pascal, il ne dépend pas d'une argumentation de plus en plus fine sur les raisons pour lesquelles l'existence de Dieu est possible, probable ou sûre. Le choix a plutôt affaire avec l'existence elle-même et avec une urgence à laquelle le sujet est tenu de répondre, et vite de surcroît, car Pascal nous dit: maintenant, il faut choisir et sans attendre, car dans le délai, nous risquons de trouver une excuse. Afin que la passion ne nous nuise pas, faisons comme s'il n'y avait que 8 jours de vie. Un choix radicalement libre et en même temps obligatoire, voilà le point fixe à partir duquel un sujet, qu'il croit ou qu'il ne croit pas, structurera son existence tout entière. Il n'y a pas de solution moyenne ici, pas de position raisonnable, pas de posture commode. C'est la raison pour laquelle Pascal préfère de beaucoup un incroyant résolu à un jésuite, à un déiste cartésien, à un croyant tiède, et qu'il peut définir l'athéisme comme une preuve de force de l'âme. La notion de Paris s'oppose à la fois à l'empirisme qui colle à l'expérience. Elle s'oppose au relativisme sceptique qui se contente des valeurs limitées que le monde lui offre et au dogmatisme cartésien notamment qui croit avoir trouvé dans le monde des certitudes rationnelles suffisantes. Et aussi et surtout Pascal, qui était un scientifique majeur, s'oppose au discours de justification de la foi qui mime la science. La seule chose qui compte pour lui, c'est la captation subjective, c'est, je cite, de proposer aux hommes de consacrer ce qu'ils ont de mieux à l'essentiel. J'évoquais tout à l'heure la relecture de Lucien Goldman pour comprendre cet étrange croisement entre Pascal et le marxisme. Il faut bien sûr partir de l'angle de la foi et éviter de penser en termes de religion, sinon on ne comprend pas comment ça pourrait fonctionner. Au cœur des pensées de Pascal, nous dit Goldman, nous avons l'attitude des chrétiens envers le monde qui doivent lutter pour défendre la vérité et la justice, tout en sachant qu'il n'est pas du tout sûr qu'ils triomphent. Le pari est en ce sens le corollaire de la foi, en l'existence de quelque chose, la justice par exemple, vis-à-vis duquel la certitude est absolue et qui est en même temps absolument incertain quant à son advenu. C'est en ce sens que Goldman nous dit que le marxisme continue l'héritage pascalien. Je le cite. Les deux positions s'opposent à tout ce qui est exclusivement esprit comme à tout ce qui est exclusivement matière. Donc c'est la position de Pascal et la position de Marx. Les deux définissent les valeurs en tant que réalisation et incarnation de l'esprit humain dans la réalité matérielle et affirment qu'il n'y a de valeur qu'incarnée ou s'incarnant dans la réalité. Or, l'engagement sur une incarnation future des valeurs, dans un avenir subordonné au jeu des facteurs objectifs et multiples, et qui n'est pas réalisable, qui n'est réalisable qu'avec le secours de forces extérieures à l'individu, ne saurait jamais être certitude absolue, dogmatique, mes actions et par là même nécessairement Paris. Or, pour le pari marxiste sur l'histoire, le problème de la certitude se pose en termes analogues. Il est certitude absolue et absolument incertaine, puisqu'il s'agit d'un avenir que nous devons créer par notre action. Les thèses de Marx sur Feuerbach et la fameuse formule « nous avons à choisir entre le socialisme et la barbarie » indique qu'il ne s'agit pas d'une certitude pure, d'une fatalité irrévocable. En même temps, fin de citation, en même temps, Goldman insiste sur l'opposition du marxisme à toute religion en nous disant que la foi marxiste, je cite là un article de Michael Lowy sur Goldman, la foi marxiste est une foi en l'avenir historique que les hommes font eux-mêmes, ou plus exactement que nous devons faire par notre activité, un pari sur la réussite de nos actions. La transcendance qui fait l'objet de cette foi n'est plus ni surnaturelle ni transhistorique, mais supra-individuelle, rien de plus, mais aussi rien de moins. L'homme n'est pas une monade isolée qui se suffit à elle-même, mais un élément à l'intérieur d'un monde qui le dépasse et auquel il est relié par ses aspirations, ses actions et ses convictions. Un monde où l'individu ne saurait réaliser seul, par ses propres forces, aucune valeur authentique, nous dit Goldman. Il a toujours besoin d'un secours supra-individuel sur l'existence duquel il doit parier, car il ne saurait vivre et agir que dans l'espoir d'une réussite à laquelle il doit croire. Voici, en résumé, une vision du marxisme comme pari révolutionnaire. En tant que pensée rationaliste, nous dit Michael Lowy, la dialectique marxiste est héritière de la philosophie des Lumières, mais par sa foi dans les valeurs transindividuelles, et renoue, par-delà six siècles de rationalisme thomiste et cartésien, avec la tradition augustinienne dont se réclamait Pascal. L'acte de foi, affirme tranquillement Goldman, est le fondement commun de l'épistémologie augustinienne, pascalienne et marxiste. Bien qu'il s'agisse dans les trois cas d'une foi essentiellement différente. Évidence du transcendant pour Saint-Augustin, pari sur le transcendant pour Pascal, et pari sur une signification immanente chez Marx. Voilà le point de rupture majeur entre la foi religieuse et ce qu'on pourrait appeler une foi politique. Si pari il y a, ce ne peut être qu'un pari sur l'immanent, sur un avenir qui est bel et bien incertain, mais dont il est certain que nous le construisons nous-mêmes. Cet intérêt d'un certain marxisme pour le pari pascalien me semble intéressant si on le considère dans un horizon plus large de rupture avec le déterminisme d'un avenir révolutionnaire inévitable, certain, garanti par les lois de l'histoire, etc., ou par les limites intrinsèques du capitalisme. L'intérêt de ces approches iconoclastes, Goldman, mais aussi le dernier Althusser, qui se situe à l'opposé d'un matérialisme fondé sur des jugements de faits objectifs, c'est que tout en se disant matérialiste, ces approches se libèrent de la lourde charge positiviste et déterministe qui a plombé au cours du XXe siècle le potentiel subversif du marxisme. Goldman nous dit que rien sur le plan des jugements de faits scientifiques, ne permet d'affirmer la justesse ou l'erreur du pari initial. Celui-ci ne peut pas faire l'objet d'une preuve ou d'une démonstration factuelle, car il se joue dans l'action en commun, dans la praxis collective, et il comporte simultanément, comme le pari pascalien, avec l'espoir de la réussite, le danger de l'échec. Mais la véritable essence du pari, il me semble, c'est qu'il faut parier. Ce que nous pouvons en retenir, c'est son caractère obligatoire, le « vous êtes embarqué » de Pascal, et aussi le fait que si la politique relève d'un travail pour l'incertain, c'est une belle expression de Pascal en référence à la foi en Dieu, le travail pour l'incertain, ce n'est pas au sens où nous serions dans l'élément du doute perpétuel, parce que parier signifie à la fois ne rien savoir et être certain, mais d'une certitude pratique qui reste toujours consciente de l'existence d'une possibilité contraire.